Bible de l'humanité, deuxième partie, chapitre 7, le combat de la femme et du stoïcien, de la loi et de la grâce. Le fier génie de Rome semblait prédestiné à continuer l'œuvre grecque pour défendre le monde de l'engloutissement oriental des dieux d'Asie qui venaient, cruels ou pleureurs, enterrer l'âme humaine. Que Moloch l'attaqua de ses cornes de fer, qu'Adonis l'inhuma dans la myrrhe de ses noces éternelles, l'Orient c'était le sépulcre. Immense et énorme combat. Rien de pareil aux guerres puniques dans toute l'histoire du monde. Ce n'est pas là cet Alexandre qui va, léger coureur, à travers un empire détruit. Ce ne sont pas les guerres obscures de César aux forêts désertes où il tue 100 nations. Ici, tout s'est passé en pleine lumière. Hannibal fut réellement bien autre chose que tout cela, bien autre l'armée d'Hannibal. Grand fut le jour où le dieu innommé de Carthage, avec la machine terrible de cette armée sans nom, avec ce fort génie de guerre, et le plus fort qui fut jamais, fondit sur l'Italie. Le jour où l'Orient et l'Afrique lui tombèrent des Alpes, on sut alors tout ce que l'Italie, la mer féconde, avait en ses entrailles. Ce que n'eut jamais pu la Grèce, elle trouva une masse rurale, profondément épaisse, 2 millions de soldats. Masse honnête, docile, indomptablement résignée, infatigable pour mourir. Rome enseigne la mort dans ses jours à toute la terre. Et à la longue, c'est le monstre qui meurt. Merci, grande Italie, cela reste éternel. Le vieux Gennius italique a eu une grande science qui vaut bien des philosophies, celle du foyer et de la tombe. Les pénates époux, gardiens de la famille, les grands dieux consentes, mariés deux à deux, qui plus heureux que nous naissent et meurent le même jour, cela est doux et vénérable. Les tombes étrusques et italiques n'accablent pas comme les nécropoles d'Égypte. Elles relèvent, elles consolent. Elles parlent d'homme à homme, nous enseignent le cours du temps, les grands âges du monde, le retour régulier des choses. Sens profond de l'histoire que ce pays eut seul, qui vivifie la mort, fait fleurir les tombeaux. Le respect des limites, de la propriété, de la terre consacrée par le travail et par les tombes, préparait admirablement ce peuple à devenir, sous l'inspiration de la Grèce, le maître universel de la jurisprudence. Nul ne poussa plus loin l'attachement au droit, même imaginaire, du passé. La patience infinie du plébéien, qui combat tant de siècles pour la cité si dure qui toujours le repousse, ne s'explique que par la douceur infinie de l'agriculteur italien. Nulle révolte que l'Aventin, la Sécessio pacifique. Le résultat fut grand. Il en sortit 3 choses. Le faisceau italique où se brisa Carthage, la conquête du monde et l'organisation du plus bel empire qu'a vu le soleil, enfin, une œuvre immense, en tant de parties immuables, le colossal Corpus Iuris. Je sais tout ce qu'on dit. Les Romains firent la guerre, ainsi que tous les peuples. Rome avait des esclaves, ainsi que tous les peuples. Les proconsuls romains abusèrent du pouvoir, comme il se fait toujours. Verrès était-il pire qu'Hastings, absous par les Anglais ? Était-il pire que les premiers gouverneurs espagnols qui ont dépeuplé l'Amérique? Ou pire que les chrétiens qui marquent cette année de la mort de 3 peuples? 1864, il s'agit de la Pologne, du Danemark, du Caucase. Rome fit-elle la décadence? Non, elle en hérita. C'est un monde fini qui tomba dans ses mains. On oublie trop la dépopulation, le chaos, les bacchanales militaires que l'humanité subissait depuis Alexandre le Grand. L'orgie se concentra et expira dans Rome. Mais pourquoi l'appeler romaine? quand ce n'est plus qu'une ombre, même au milieu de Rome, c'est l'orgie d'Asie, d'Orient. Rome admit tous les dieux, maintint toutes les lois des vaincus, ne se réservant que l'appel. Elle rendit hommage à leur génie. Rien n'est plus honorable à ces magistrats souverains que la déférence infinie qu'ils témoignèrent au génie grec, y reconnaissant hautement l'autorité de la lumière, avouant qu'il tenait tout de lui. « Vous allez à Athènes, écrit Cicéron à Atticus, respectez les dieux. Jamais les Grecs eux-mêmes n'ont parlé de la Grèce comme l'a fait le Romain Lucrèce dans ses vers solennels, si émus d'accents si profonds. Le grand génie sacré de l'Italie, Virgile, s'il parle de la Grèce, descend humblement du trépied, dépose les lauriers de sa tête, se fait disciple, enfant d'Hésiode, et le suit. Belle tendresse, aimable et touchante, il ne sait pas combien ce maître est au-dessous. Par trois fois, Rome même fut aux genoux de la Grèce, pour la langue, la philosophie et l'inspiration du droit même. Tout Romain eut un maître grec, apprit à fond la langue d'Homère et jusqu'à négliger la sienne. On ne parlait que grec à Rome, et dans les moments les plus vifs où le cœur même échappe, dans l'accès de l'amour, Juvénal, sous le coup de la mort, quand César est frappé, il crie en grec « Hellénistie !» Aux Grecs, on demandait la règle de la vie. La philosophie grecque, en toutes ses écoles, régnait, trônait dans Rome. Et je ne parle pas des idées théoriques, de la spéculation, je parle de l'action, des mœurs, de la conduite. Le philosophe grec, dans chaque grande maison romaine, est-elle le conseiller à qui on demandait force et lumière au moment trouble de la vie? Les héros de la résistance, les Thracéas, avaient leurs philosophes pour les assister à la mort. Les empereurs même avaient leurs grecs qui modéraient, adoucissaient, calmaient. Auguste, sans le sien, n'aurait été qu'Octave. Dans cette noble antiquité, rien de plus noble et de plus grand que la simplicité de Rome, toute puissante, maîtresse du monde, qui demande secours à la Grèce, à cette vieille Grèce ruinée, déjà presque déserte, à la solitude d'Athènes. Opprimée de sa grandeur même, elle s'adresse à la pauvreté, à la sobriété grecque. Le grec eut de la muse le génie, la parole, l'âme au-dessus de tout désir. Horace. Mais la Grèce elle-même, comment vit-elle encore? Après l'horrible choc des armées d'Alexandre, brisées, rebrisées, désolées, quand les Romains eux-mêmes ont emporté ces dieux, peut-être 1 million de statues, quand chaque autel est vide, quand les héros qui décoraient les places, les rues et les portiques s'en vont captives à l'Italie, qu'a-t-elle la pauvre Grèce encore? Là, on doit admirer la force des dieux helléniques. En eux resta la base sur laquelle la Grèce soutint Rome et l'humanité. La Grèce s'appuya sur Hercule. Un portique à Athènes lui était consacré, le Cynosarge. C'est là qu'à la mort de Socrate s'établit son disciple fidèle, Antisthène, qui seul poursuivit la vengeance du maître et punit les accusateurs. Dans cette décadence qui suivit les 30 tyrans, il fit la vaillante entreprise de poser sous les yeux du peuple le type même de la liberté. Hercule fut éminemment libre, put avoir tout, ne voulut rien. Avec sa peau de lion, sa massue d'olivier, la force pacifique, il était plus roi que Risté. Ce fut le modèle d'Antisthène, de Diogène son disciple. Diogène, qui n'était nullement le fou qu'on dit, fit ce que Solon avait fait, ainsi que les prophètes hébreux. Tout un siècle durant, il prêcha par ses actes, joua la comédie d'Hercule. Exagération calculée, les maîtres de chœur, disait-il, forcent le ton pour y ramener leurs élèves. Le ton, la tension dans le relâchement général, c'est la philosophie d'Hercule. Ainsi, dans la main d'Apollon s'étaient tendus l'arc et la lyre. Un monument nous montre Hercule, jeune encore, qui, dans son amour héroïque du beau et du sublime, prend la lyre, la dispute à Apollon lui-même. Cette tension n'est qu'harmonie, douceur. Diogène en donna le solennel exemple. Esclave et chargé par son maître d'élever un enfant, par la plus douce éducation, il en fit un homme admirable. Le grand mythe des 12 travaux fit la philosophie nouvelle, glorification du travail. Le bien, Dieu, c'est nature. Nature, c'est la raison qui peine et travaille le monde. Travail, c'est le souverain bien. Le travailleur, l'esclave, est réhabilité. Hercule est celui d'Oristène. Diogène, vendu par hasard, veut montrer qu'en plein esclavage, on peut se garder libre. Il refuse d'être racheté. Des hommes nés esclaves, Ménippe, Monime, etc., sont admis au portique d'Hercule et ils en font l'honneur. Tout cela est un jeu. On aurait pu le croire, mais les circonstances terribles, les affreux coups du sort, la barbare orgie militaire et l'incarnation du tyran mirent en demeure le sage pour prouver qu'il était le fort. La passion de Callisthène, crucifié par le fou cruel qui avait l'aptère à ses pieds pour avoir défendu l'honneur et la raison, ce solennel événement pose l'école sur le champ de bataille devant la mort et les supplices. De cette croix s'entend le mot du Prométhée « Ô justice, ô ma mère !» Le mot de Letiphron, qui est le dernier de Socrate « Rien n'est saint que le juste !» Cela constitue le portique. Zénon, Chrysippe enseigne que justice est sainteté. Thémise ne siège pas, comme on dit, près de Jupiter. Elle est Jupiter même, dieu des dieux et souverain bien. Le bien fait le bonheur. Le sage est seul heureux. Le juste est heureux dans la mort, la douleur, la torture. 20 mots, non, l'acte y répondait. La force en soi trouvait un sublime alibi. Écrasé et pilé, un stoïcien disait au tyran qui le mit dans un mortier, « Écrase, pile et tue, tu n'atteins pas l'âme. » Le grand rôle de la résistance que prirent les stoïciens au début de l'Empire les fait considérer par un aspect trop spécial. Ce qu'Horace appelle « atrochem animum catonis » nous obscurcit le stoïcisme, le fait croire plus étroit et cache en partie sa grandeur. On ignore généralement qu'à côté du devoir, du juste, son principe, il en admet un autre que la vraie justice enveloppe, à savoir celui de l'amour. Notez que ce n'est pas un adoucissement tardif du temps de Cicéron ou de celui de Marc Aurèle. 500 ans avant Marc Aurèle, au temps d'Alexandre le Grand, Zénon, le premier stoïcien, exposant la cité universelle du monde, dit déjà « L'amour est le Dieu qui sauve la cité ». L'amour, autrement dit l'amitié mutuelle et la fraternité humaine. Du premier coup apparaît nettement la trinité sacrée, la liberté de l'âme, la liberté égale et qui s'étend même à l'esclave, l'amour de tous pour tous, la grande unité fraternelle. Que l'heureux aime et fraternise, c'est chose aisée, ce semble, mais que le misérable, dans les durs travaux monotones, ingrats, qui sèchent l'âme, aime encore, fraternise, c'est beau, c'est grand. Zénon eut le bonheur de trouver ce miracle en Cléante, son disciple. La nuit, il travaillait, tirait de l'eau pour les jardins. Le jour, il méditait, philosophait. Zénon, charmé de lui, l'appela le second Hercule. Il avait l'âme même du héros, bonne et tendre. et c'est lui qui posa la grande, l'immuable formule. L'amour commence avec la mère, le père, de la famille à la bourgade, à la cité, au peuple, il s'étend, il devient le saint amour du monde. L'homme dès lors, par cela seul qu'il est homme, n'est plus pour l'homme un étranger. 300 ans avant Jésus-Christ. Ils ne s'en tinrent pas au principe. Ils emportèrent l'esprit dans une infinité de questions pratiques qui touchaient le terrain de la jurisprudence. De Paul-Émile à l'Abéon, jurisconsulte stoïcien, les Grecs, surtout ceux du portique, préparent à la fois les hommes et les idées. Le droit de l'équité adoucit, modifie la barbarie antique. C'est le fait du prêteur. Mais le prêteur, qu'est-il ? L'élève d'un philosophe grec, le plus souvent d'un stoïcien. Qui arrêta l'œuvre du philosophe, de la sagesse grecque ? Qui rendit inutile la grande expérience du politique et juriste romain ? Qui empêcha enfin la restauration de l'Empire ? Les vices de la toute-puissance, incontestablement, mais surtout la fatigue, l'incroyable fatigue du monde à cette époque. La fin de la guerre de 30 ans, l'épuisement de l'Europe après les Wallenstein, les Tilly, les longs ravages des mercenaires d'alors, donnent une faible idée de l'état des peuples anciens après les 300 ans où les successeurs d'Alexandre, les Pyrrhuses, les Agathoclès et les mercenaires de Carthage mirent partout la mort, la ruine. Ajoutez par-dessus Marius et Sylla, l'atroce combat de l'Italie elle-même divisée aux soldats, divisée sans profit, car la culture cessa. Même aux portes de Rome commençait le désert. Les pères nous trompent étrangement en voulant nous faire croire que les temps de l'orgie païenne continuaient dans l'Empire. Elle était concentrée dans Rome avec l'excès des vices et l'excès des richesses. Ailleurs, tout était morne et pauvre. La Grèce était déserte et l'Orient vieilli. Sauf Alexandrie, Antioche, ville nouvelle de quelques mouvements, un grand silence, un grand apaisement n'était partout, disons plutôt torpeur, somnolence et paralysie. Autre sujet de lassitude que cachent aussi les pères. En 3 ou 4 siècles, des dieux divers avaient paru, passé, se succédant comme des ombres. Les beaux dieux grecs, Apollon, Athénée, vers 400-300, ont fait place à Bacchus, l'engloutisseur de tous, qui dévore jusqu'à Jupiter. Bacchus, orientalisé par Adonis Sabas, perd tout son caractère, mêle et fond ses mystères aux mystères ambulants de Phrygie et d'Égypte, d'Attis, d'Isis, etc. Misérable parade. Derrière marche Mitra, le rénovateur impuissant. Donc, 3 âges de Dieu depuis feu Jupiter. Les pères nous ressuscitent tous ces dieux pour faire croire que le dieu nouveau, leur vainqueur, eut en face à combattre la fureur de l'orgie antique, le vrai Bacchus aux cornes de taureau, les lions rugissants de Cybèle. Mais tout cela était dans le tombeau. Jupiter et Bacchus, dès longtemps marbre froid au Panthéon de Rome, étaient hors des affaires et, désintéressés, purent contempler à l'aise la lutte de Mitra et Jésus. Ce monde usé, une force le minait en dessous. Quelle chose singulière ! C'était son progrès même d'humanité et d'équité. L'équité vaste et généreuse du droit, qui donnait prise aux mortels ennemis de la raison, ténébreux destructeurs du droit et de l'Empire. Toute nation, peu à peu, vient dans Rome. C'est la patrie commune. Quand l'Italie a rompu la barrière, lorsque le bon tyran César, le bon tyran Antoine, amant de Cléopâtre, ouvre la porte à l'Orient, l'humanité entière arrive et se présente. Tous admis, peu à peu. Car enfin, ils sont hommes. L'indulgence du nouveau Bacchus, César, qui marche sans ceinture à l'imitation de son dieu, s'accorde en ce point tout à fait avec son ennemi, le stoïcien, avec la vaste humanité des doctrines du portique. Rome regarde, admire ses nouveaux fils. Elle se voit des Romains de Libye tout noirs et jaunes de Syrie, des Romains aux yeux verts des marais de la Phrygie. Les plus incohérents mélanges se font d'hommes ébauchés, des barbares, ours ou phoques, avec les cadavres et squelettes de l'impur Orient, résidus des empires, sépulcres de sépulcres et caput mortuum. Et il arrive, ainsi qu'en tout mélange, que la saine verdeur est absorbée, gâtée par la pourriture enviée. Hélas, la pourriture, la mort, est dans l'esclave, tous les vices du libre et les siens. Relevé par le stoïcien, le juriste et la loi romaine, replacé près du libre, peut-il défaire en lui la trace de sa longue misère? Notez que ce n'est pas l'innocent travailleur, le nègre d'Amérique. L'esclave antique est l'égal de son maître en culture, en malice, en perversité. Presque toujours, c'est l'humble, le gracieux fils de l'Orient qui vient comme femme-enfant, qui par l'amour, l'intrigue, en tout palais de Rome fait circuler ses dieux d'Asie. Le suave Chiron est bien plus qu'un esclave pour Cicéron. C'est un ami le plus soumis, partant le plus puissant et maître de son maître. Croit-on aussi que Lycoris, la poétique, la virgilienne, put vraiment être esclave? Ces belles, dès que l'âge venait, se rachetaient et restaient riches. De retour en Asie, en Grèce, honorables matrones, libres d'aimer alors, elles aimaient les rêves, les fables, les dieux d'Orient. Autres n'est guère l'esprit de la vraie dame, de la libre romaine, épouse indépendante du nombre de maris ou veuve et mère régnante absolue d'un enfant. Si elle n'est tutrice, elle a le vrai de la tutelle, la garde de son fils, administre ses biens. On le voit dans Horace, on le voit dans Sénèque. Mais bien plus, les excès précoces, mortels au mâle plus qu'à la femme, à Rome comme en Grèce, concentrèrent les biens dans la main féminine. Tout y aide, et la loi, généreuse et humaine, et la nature, de plus en plus puissante. Le cœur parle, et toujours au profit de la fille. La charmante formule des lois du Nord, si elle n'est encore écrite en droit romain, n'y est pas moins partout vivante. Ma douce fille, un droit sévère te privait de mes biens. Moi, cher enfant, je t'égale à tes frères, etc. C'est justement l'élan du cœur que sentit notre France de la Révolution quand, d'un coup, sans préparation, humanisant le droit civil, elle fit de la Française la femme la plus riche du monde. Et le résultat fut le même. Lui donnant la fortune sans lui donner l'éducation, la faisant riche sans la faire éclairer, sans la mettre au niveau de la lumière du temps, la loi lui mit en main des armes pour détruire la loi. Jamais le retour obstiné des fautes et des malheurs n'a été plus frappant. Aujourd'hui comme alors, alors comme aujourd'hui, la révolution réussit à s'étouffer elle-même. Paula et Metella, par dot ou héritage, armés de fortunes immenses, bâtirent à Sérapis, à Mitra, à Jésus, ses chapelles et ses temples, dont nos villes aujourd'hui se sont de nouveau couronnées, les forts et citadelles de la contre-révolution. Bizarre spectacle. À qui la loi remet-elle ses forces énormes? À la faible personne, à la main maladive, au cœur chimérique et troublé que l'on prendra si aisément. Qui les sauvera d'elle-même? Cette Paula, dans son vaste palais, a peur. Les riches affranchis, les Chloé, Phoebé de Saint-Paul, celle de Magdala, devenue si fameuse, tremblent, hantées d'esprits inconnus. Au lendemain de l'orgie antique, quand tout a pâli, défailli, elles courent aux sombres chaldéens, astrologue mathématicus, qui hérita des mages, qui calcule le ciel, les étoiles et les destinées. Il n'était jusqu'aux Juifs, maigres et sales, couchant en plein air au champ de Mars, dans un panier qui ne fut consulté par la femme inquiète. De grands changements allaient venir. Elle en était sûre, le sentait, elle les avait en elle qui se débattait dans son sein. Quelles ? Des choses terribles, qu'on disait et ne disait pas, que l'on faisait entendre. La fin du monde, d'abord, la mort universelle, suprême catastrophe qui emporterait à la fois nos vies et nos souillures, cette immense nausée nous délivrerait de nous-mêmes. Elle a pâli pourtant, elle veut et ne veut pas mourir, elle est prête de demander grâce. Il la tient, il lui fait espérer, acheter un grand secret. Le monde, en mourant, ne meurt pas. Un âge passe, un âge vient. L'Égypte, l'Étrurie n'eurent pas d'autres mystères au fond de leur tombeau. Le circulus des choses, le cœur des heures du monde dans sa ronde éternelle, de mille ans en mille ans, ramène le couchant et l'aurore. Une vivante aurore va venir, recommencer tout. L'aube blanchit déjà, le mystère s'accomplit, et le berceau est prêt. Attendons le divin enfant. L'Italie expirante se soulevait encore en son Virgile pour faire ce vœu et tâchait d'espérer. Son poète, aux longs cheveux de femme, infortuné sibylle dont on étouffait les soupirs, put cette fois parler, prophétiser. Ses maîtres, les cruels politiques, espérant que sa voix sacrée allait unir le monde sur le berceau d'un fils d'Auguste. Le circulus des âges, l'attente universelle, devait ramener un enfant, un petit dieu sauveur. La Perdita ou Proserpine, le Bambino Bacchus exposé sur la mer, le doux Adonaï blessé, ressuscité, ces trois enfants n'avaient charmé le monde. Attis l'avait ravi dans l'émouvant spectacle où, d'un arbre, plein de soupirs, jaillissait l'enfant retrouvé. Tout cela ingénieux, charmant, mais bien usé. On ne savait pas trop dans le palais des empereurs si l'on devait refaire ou proscrire les messies. La mère d'Auguste y avait échoué, et chacun rit de son serpent, imitation servile de l'incarnation d'Alexandre. Mécène était d'avis de ne plus essayer ni souffrir ces machines, de proscrire les sauveurs, dangereux pour l'Empire. Homme de tant d'esprit, il ignorait pourtant que toute royauté est un messianisme. L'individu dont l'âme immense contient, dépasse l'âme d'un peuple, est nécessairement un miracle, une incarnation. La dernière forme populaire avait été Attis, image vraie de l'épuisement du monde. Après l'orgie féconde et priapique, la fureur d'impuissance éclata dans ce mutilé, fille-garçon, et nul en ces deux sexes. Plus de mal, Attis, dans Catulle, en se pleurant, pleure l'humanité même. La nature semble atteinte de la stérilité de l'homme. Le soleil blême n'échauffe plus, l'arbre sèche et l'herbe a jauni. Mais si l'on ne crée plus, on peut se souvenir, on peut parler, répéter les paroles. Ce qui reste de vie, c'est surtout la voix, c'est l'écho. Le dieu parole survit à tous les dieux. Plus de cité, mais subsiste l'école. Le nouveau sauveur est le maître. Un doux maître à voix basse qui mette la sourdine aux notes élevées du passé, qui n'apporte nul changement, n'oblige à nul effort pour savoir du nouveau. Les anciens maîtres Apollon et Orphée ont chanté. Pythagore a enseigné par le silence. Le silence en dit trop. Plus douce est la douceur de ces vagues paroles murmurées vers le soir, à la femme, à l'enfant, qui veut, ne peut dormir. La voix qui vient alors, on ne saurait trop dire si c'est du dehors, du dedans. Est-ce un moi hors du moi, l'âme aimée ou soi-même? Mais le charme est trop grand pour vouloir l'éclaircir. On y tient, paresseusement, on craint de s'éveiller et d'être trop lucide, de reprendre la vie d'effort et de raison. Surtout, point de raison, dorme la conscience, passivité complète, que l'âme ne soit qu'un instrument. C'est ce que recommande Philon, le contemporain de Jésus, et comme on l'a nommé, son frère pour la doctrine. Il exprime très bien la molle somnolence de cet âge passif où se coucha le monde sous la fatalité de l'empire éternel. Quant au pédantesque débat qui joignait les rabbis sur le prochain Messie qui allait tout finir, quant à leur barbouillage du Logos, de la Sophia, du Fils de l'homme qui vient sur les nuées, cela n'avait guère prise. La foule tenait bien autrement à la tradition de Syrie, l'incarnation de la colombe, à la tradition juive, l'Esprit Saint descendant chez une mère stérile pour faire un grand Nazaréen. Ces miracles bibliques, lus et relus aux fêtes, rendaient la femme bien rêveuse quand elle en revenait le soir. De l'Orient, l'étoile d'or la voyait, la suivait, lançait son scintillant regard. Les sauveurs de l'Asie sont les fils de l'étoile. Qui ne l'a vu descendre parfois, laisser ici sa traînée lumineuse comme un flux de la vie du ciel? La chaleur en vient à la face, et moins encore suffit la plus légère aura, l'esprit dont parle Élie. D'abord c'était tempête, et ce n'était pas lui. Puis un vent fort passa, ce n'était pas lui encore, mais enfin un vent tiède, un vent doux, c'était lui.